On va se tourner dans Jean 2. Donc on arrive dans notre étude de Jean au chapitre 2. On a regardé le prologue, on a regardé le témoignage de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, on a regardé les témoignages et les premiers disciples qui viennent à Jésus. Et maintenant, nous allons regarder le passage dans Jean 2 qui nous montre le premier miracle ou le premier des signes que Jean va présenter, ce dont il parle à la fin de son livre en disant « Ces signes, je vous les ai annoncés pour que vous croyiez. » Mais il y en a tellement d'autres que on ne pourrait pas les écrire tellement il y en a à décrire. Et Jean en a choisi, on dit typiquement qu'il y en a sept signes miraculeux qui ont une importance et que Jean a choisi pour des raisons bien précises. Et donc on arrive ici dans le chapitre 2 au premier de ces signes qu'il va décrire. Lisons ensemble. « Or le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ?» « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Prions encore. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour ce premier signe que nous voyons dans l'évangile de Jean. Parle-nous, parle à chacun d'entre nous, à travers ce texte, à travers ces choses que nous voyons dans ta vie. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous parles. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, à entendre ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous ce matin par ce texte, Seigneur. Amen. Donc on arrive au troisième jour, ou 2 jours plus tard, on pourrait dire, après les événements précédents qui sont au chapitre 1. Et Jésus, avec sa mère Marie et ses disciples, sont invités à une fête de mariage à Cana, qui était... une petite ville proche de Nazareth, peut-être une quinzaine de kilomètres, d'après ce que j'ai lu chez les commentateurs. J'ai pas été moi personnellement, mais c'était un village proche et on peut penser qu'il s'agissait sans doute de quelqu'un de proche de la famille. Donc ils sont là, ils sont présents. Et la première chose qu'on peut noter, c'est que Jésus est invité. Dans les évangiles et dans la vie de Jésus, on voit que Jésus était souvent invité et convié à des fêtes, à des événements, à des repas chez les gens. Il était le bienvenu. Il n'était pas quelqu'un qui venait et qui gâchait la fête, qui regardait les gens boire et puis qui allait dans un coin lire sa Bible ou interrompait un moment en disant « Ouais, il faut arrêter de boire ». Il n'était pas quelqu'un qui gâchait la fête, la situation. Les gens étaient contents d'être en sa présence et étaient contents de l'inviter et de l'avoir avec eux. C'était agréable d'être en sa présence. Ça nous donne une indication aussi sur... l'importance, on va en reparler, mais que, que ce soit le premier miracle dont il soit question, et quand on regarde ça, et puis quand on regarde beaucoup des paraboles et beaucoup des choses que l'on voit plus tard dans les évangiles, Jésus accorde beaucoup d'importance au mariage. Il se soucie de nos familles, de nos vies de famille, de nos relations. Dans le mariage, il se soucie de nos relations en général, mais il y accorde beaucoup d'importance, et on le voit ici. Mais une bonne chose à retenir, c'est Jésus était invité. Et pour nous, est-ce que nous invitons Jésus dans nos vies? Est-ce que nous invitons Jésus aux choses que nous dans les choses que nous faisons? Est-ce que quand vous regardez votre agenda de la semaine, si vous en avez un, pour ceux qui sont les plus organisés, est-ce que vous vous dites, tiens, ça, Jésus, viens avec moi pour ça. Jésus, sois présent à ce moment-là. Jésus, sois présent pour cette rencontre. Jésus, sois présent pour ce repas avec ma famille. Jésus, sois présent pour telle et telle activité. On pourrait même, peut-être, pour certains d'entre vous, pour moi, je pense que ce serait une bonne chose, parce que souvent, je suis à l'église, je prie le Seigneur pour qu'il agisse et pour qu'il soit présent. Et puis demain, quand je suis là et que je vais bricoler quelque chose, moi, je travaille ici. Donc, par exemple, hier, j'ai fait des travaux à l'étage. Mais ça me vient pas forcément à l'esprit de me dire, Jésus, est-ce que tu peux venir m'aider, sois présent avec moi dans ce qui se passe, dans ce que je fais, dans les gens avec qui je vais interagir. Vous pouvez prendre votre agenda et consciemment dire à Jésus, viens Jésus, viens, sois présent avec moi dans tout ce que je fais. Et on voit que Jésus, quand il est invité, il accepte l'invitation. Et c'est un moment intéressant dans la vie de Jésus, parce qu'il venait de vivre des choses très intense. Dans la vie de Jésus, il y a 30 ans où il est un peu incognito, il ne fait pas grand-chose, on a l'impression il est présent, il vit, il est là. Mais on a le début de son ministère. Il y a cet épisode incroyable avec le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe, son séjour dans le désert avec la tentation. Et on pense ici que c'est juste après. Il appelle ses premiers disciples, il commence un petit peu à interagir avec eux. C'est un moment... Moi, je me mets à sa place, je me dis, ah non, maintenant, ça y est, je suis concentré, c'est parti, je suis occupé... ça fait 30 ans que je fais pas, entre guillemets, alors c'est Jésus, il avait pas ce genre d'impatience ou de frustration, mais on pourrait se dire, bon, maintenant on y va, et bon, une fête de mariage, on va, moi j'ai 3 ans là, il faut que je me concentre là, et Jésus accepte l'invitation. Et c'est un événement social qui est important, mais qui le transforme pas en quelque chose de encore une fois de religieux. Il donne pas d'enseignement. Il est là avec les gens. Il profite de la fête avec les gens. Jésus aime être en compagnie des gens. Dieu nous aime. Parfois, on peut penser de manière fausse qu'être spirituel, c'est être tout seul dans un coin perdu, on va sous un arbre, on médite, on part dans un monastère, ça c'est vraiment être spirituel. Quand on est à l'église, le temps de louange, c'est ça qui est beau, quand on a l'enseignement, l'étude biblique, c'est là que c'est magnifique, et ce qui se passe après, quand on prend un café avec les gens, alors on le tolère, mais c'est pas vraiment ça le cœur du truc. Non, Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de. Il veut être avec nous. C'est aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour qu'il nous sauve, mais aussi pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et ça veut pas dire que toutes les autres choses sont mauvaises et que Dieu ne veut pas que nous passions du temps avec lui dans la louange, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. Mais il y a une importance aussi pour le social et le relationnel, la communion fraternelle. C'est tellement facile pour moi de tomber dans cette erreur, de me dire non, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment spirituel, peut-être même quelque chose comme les personnes dont on a parlé précédemment, Pauline et Linda. On peut se dire, oui, je vais lui envoyer un verset, je vais aller la voir et je vais prier pour lui. Ce sont de bonnes choses, mais le fait simplement d'être avec la personne peut être quelque chose d'aussi puissant en tant que frère et sœur, même dans un aspect spirituel, que le fait de faire ces autres choses. Et nous ne devons pas les réduire et les minimiser. Et on peut voir aussi que Jésus profite des gens et profite de ces temps-là. Dieu nous accorde de profiter aussi de la vie et de profiter du monde et de profiter des choses qu'il nous a données. Et on n'a pas à penser qu'on doit vivre des vies spartiates, des vies d'ascètes sans profiter que je vois pas ça dans la Bible. Il y a peut-être des moments pour ça, mais pas toutes nos vies. Dieu n'est pas contre le plaisir dans la vie. Il veut que nous profitions. Et donc, je disais qu'il apporte de l'importance au mariage. Dans tout son ministère, c'est quelque chose dont il parle souvent. Il y a énormément de choses qu'il dit à propos des mariages. Et nous devrions inviter Jésus dans nos mariages, pour ceux d'entre nous qui sommes mariés. Nous devons lui demander de nous aider dans nos mariages. On voit qu'il... Dieu a institué le mariage et Dieu l'utilise et veut que ce soit un exemple et une image de la relation entre Jésus et son Église. Et c'est quelque chose qui est de partout dans la Bible. Et malheureusement, nous vivons dans une société qui rejette le mariage, qui rejette l'importance du mariage. Et on pourrait passer beaucoup de temps à discuter de ce rejet-là. Mais je vais simplement dire que non, que c'est quelque chose que Jésus a institué pour notre bien, qu'il bénit le mariage quand nous respectons et nous honorons l'institution que Dieu nous a donnée. Il bénit et il l'utilise pour bénir non seulement les personnes mariées, mais les personnes autour aussi, la société de manière générale. Alors dans ce texte, il est au mariage, ils sont invités, et au verset 3, on voit, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors pourquoi est-ce que c'est significatif? Si on se met dans le contexte, un mariage juif, c'était une grande fête. C'était, d'après les commentateurs, c'était une semaine ou deux de festivités où tout le monde était invité. Tous les invités qui venaient, la tradition, c'était que la famille qui organisait l'événement, le mariage, devait s'occuper de tous les invités, devait les nourrir, devait s'occuper de tous leurs besoins. Et moi, je vois quand on invite des gens à la maison juste pour la soirée, pour quelques heures, c'est déjà du travail. Alors si j'avais des gens que j'invitais pour une fête de 15 jours, ce serait compliqué. Il faudrait vraiment nettoyer la maison encore plus. Mais c'était vraiment une fête très importante. Et à l'époque, l'hospitalité était quelque chose de très très important. De ce que j'en comprends dans le Moyen-Orient, c'est toujours le cas. C'est quelque chose de très important socialement. Si on n'arrivait pas à pourvoir cette hospitalité, ou si les gens qui venaient se sentaient mal accueillis ou un peu maltraités, ça pouvait être vécu comme un tort social grave. Et donc à cette époque-là, d'avoir un mariage comme ça et d'avoir quelque chose, un problème qui manque de vin ou manque de quelque chose, ça pouvait être quelque chose de vécu comme un stigmate social pour le reste de leur vie, presque. C'était des petits villages où il n'y avait pas, c'était pas Nice où on pouvait dire, bon, ben, ces amis-là, je les vois plus, je vais m'en trouver d'autres, et il y a 300 000 personnes, je vais pouvoir les éviter à peu près. Non, là, c'était les mêmes gens que tu voyais tout le temps, qui allaient te rappeler tout le reste de ta vie, que tu n'avais pas réussi à fournir, ou peut-être une certaine gêne ou une honte sociale, que tu n'étais pas assez aisé, ou que tu étais un petit peu, tu voulais pas vraiment être généreux. Ça pouvait vraiment être quelque chose qui pouvait marquer le reste de leur vie pour ce mariage. Certains commentateurs avancent aussi l'idée que le vin symbolisait la joie dans la culture de l'époque, et que l'idée qu'au manque de vin, ça pouvait peut-être être vu comme un certain mauvais signe pour le mariage, la suite du mariage, qui manquait de joie. Des mariés malheureux. Pour se remettre aussi dans le contexte à l'époque, ce qui est, parfois on a du mal, on se dit bon, il manque du vin, si c'est encore tôt dans la journée, on va à Carrefour ou Casino ou Leader Price. Si c'est tard le soir, on peut aller, des fois il y a des petites épiceries où ils sont toujours fournis en vin, hein. Il y a pas de, en général, c'est surtout à ça qu'ils servent en ville souvent. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de truc où on pouvait aller juste vite fait chercher quelque chose et récupérer ce qui manquait. Dans un petit village comme ça, à l'époque, c'était peut-être une préparation de plusieurs semaines ou mois avant de faire des échanges. C'était pas forcément, on n'avait pas de l'argent, on n'avait pas un compte bancaire. Il fallait troquer des choses, et ça prenait longtemps pour préparer ces choses. Et s'il n'y a plus de vin, ben c'est trop tard. Il n'y a pas vraiment de possibilité. Et Marie le remarque, et on voit avec son interaction avec les serviteurs, peut-être qu'elle était impliquée un peu dans l'organisation, ou comme c'était de la famille proche, peut-être qu'elle aidait, et qu'elle s'est rendue compte du problème à temps ou très tôt, de voir il n'y a pas assez de vin. Et elle se dit qu'elle peut faire quelque chose concernant ce problème. Alors pour nous, avec la suite de l'idée, on peut se poser la question, quelles sont les ressources ou les moyens sur lesquels nous dépendons, sur lesquels nous nous appuyons. Si ce sont des choses qui ne sont pas Jésus, il est fort probable qu'un jour ou à un moment donné, ces choses-là viennent à nous manquer, que ces choses-là nous faillissent, que ce soit nos ressources ou nos moyens, ou éventuellement nos capacités, nos caractères. Il y a un moment ou un autre où ces choses vont faillir. Et on doit apprendre à dépendre et aller comme Marie le fait, à dire « Jésus, il peut s'occuper de ce problème-là, il peut s'occuper de ce manque-là. » Je dois le chercher pour lui demander de me transformer régulièrement. On doit avoir le réflexe d'aller le voir régulièrement, pas que quand ça va mal, mais tout le temps. Alors, regardons Marie et cette interaction qu'elle a avec Jésus. Elle va le voir et elle lui dit au verset 3, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, quelle vie incroyable. Se remettre à sa place, s'imaginer un peu ce qu'elle a vécu, comment elle a vécu, ce qu'elle a vu, surtout avant ces moments-là. On va pas s'y tourner pour pas rallonger le temps, mais quand on lit les récits dans Matthieu, dans Luc, sur la naissance de Jésus et sur tout ce qui s'est passé d'incroyable, elle tombe enceinte sans avoir connu d'homme, elle a ces annonces qui lui sont faites par des anges, elle donne naissance et il y a des rois qui viennent de pays lointains qui lui apportent des cadeaux très chers, s'agenouille devant le petit bébé. Elle a des, on voit les bergers qui viennent, qui ont vu des anges dans les cieux chanter. Elle a des prophéties qui sont données par des personnes quand elle va au temple, dans Luc 2, si vous lisez. Et de se dire, elle a ces choses qui lui sont données à la naissance de Jésus. Et entre guillemets, pendant 30 ans, rien. Pour moi, j'ai du mal à m'imaginer dans quel état d'esprit elle pouvait être. De se dire, mais Dieu, est-ce que j'ai mal entendu? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que dans vos vies, pour ceux qui ont plus de 30 ans, est-ce que vous vous souvenez des choses bien clairement, des choses qui se sont passées il y a 30 ans? Ça commence, c'est au bout de 30 ans, ça devient assez flou quand même. Hein. Moi, je sais que ma fille, elle a 4 ans, je me souviens déjà plus des trucs d'il y a un an ou deux. Et de se dire, Marie, qui avait vu ces choses et qui devait se dire, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ces choses vont venir? On voit que il est plus du tout question de Joseph. On n'a pas de d'indication. On pense qu'il était peut-être mort et que décédé, et que c'était Jésus qui, en tant que fils aîné, avait aidé la famille. On voit après qu'ils vont partir ensemble en tant que famille à Capernaüm. Et il y avait peut-être sans doute des choses difficiles dans la vie de Marie qui étaient venues. Elle était au courant de ce qui venait de se passer, de ce qui venait d'arriver. Et elle était sans doute là quand il y avait eu les choses avec Jean-Baptiste, qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Elle était peut-être là aussi quand il y a eu cette manifestation de l'Esprit-Saint. Elle voyait qu'il commençait à rassembler un groupe de disciples, qu'il y avait... Peut-être dans son esprit, elle se dit, là, ça commence, il y a quelque chose enfin qui arrive. Et pour ajouter une petite note à Marie et à ce qu'elle a vécu, on voit qu'on la considère comme bénie d'entre les femmes à cause de ce qu'elle a vécu, mais au jour où elle a vécu, elle a subi sans doute toute sa vie une honte sociale à cause de la naissance de Jésus. Les gens savent compter. Quand le mariage a lieu et que l'enfant est né quelques mois après, les gens savent compter. Ils comprenaient. Alors, il y a eu quelque chose de pas correct là. Et on voit même dans Jean 8, 41, que Jésus est en discussion avec les scribes et les pharisiens, et ils se frustrent un peu parce qu'ils n'arrivent pas à le piéger. Et y en a un, il leur parle, vous agissez comme votre père, et ils lui répondent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père Dieu. Et parfois on lit ça et on passe peut-être en disant, bon, c'est dans la conversation théologique, oui, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Non, je pense, et je l'avais jamais vu avant cette étude, ce qu'ils sont en train de dire, c'est nous on n'est pas des bâtards. Ils disent à Jésus, ils insultent Jésus en disant, arrête de dire ce que tu veux, nous, on n'est pas comme toi. Et cette attaque envers Jésus, indirectement, est une attaque directe envers Marie. Et Marie a subi cette chose toute sa vie. Et on peut se demander dans une question que je me suis posée, que je trouvais intéressante, c'est est-ce que Marie a eu une discussion avec Jésus sur la naissance miraculeuse en tant que vierge? Est-ce qu'un jour ils se sont assis, elle a dit, mais Jésus, tu sais, est-ce que... C'est les conversations, des fois, on a, en tant que parent, on peut avoir peur des conversations qu'on doit avoir avec ses enfants sur d'où viennent les petits-enfants, dans les choux, hein, dans les roses. Est-ce que Jésus, à un moment, il y a eu une conversation, je ne sais pas, c'est pas important, mais d'y penser, moi, ça me fait sourire. Et dans la réaction de Jésus, on peut peut-être comprendre qu'il y avait en filigrane quelque chose que Marie lui demandait de plus. C'était pas juste de faire quelque chose, de s'occuper du vin, c'était peut-être de dire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te révéler en tant que Messie? Montrer à toutes ces personnes qui m'ont méprisé pendant toutes ces années, est-ce que tu peux leur montrer que ce que je racontais, c'était pas des bêtises? C'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est peut-être là-dedans, ce qui permet un petit peu de comprendre, on voit que la réponse de Jésus, quand on la lit, femme, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Et peut-être que là, la raison pour cette réponse de Jésus, c'est parce qu'elle demande plus que juste ce petit miracle, elle demande à ce qu'il se révèle finalement vraiment complètement. Quand il dit « mon heure n'est pas venue », c'est l'heure de... Alors ça peut être l'heure de se révéler en tant que Messie au monde par les miracles, par les signes, ou alors l'heure de vraiment accomplir pleinement son ministère qu'il va accomplir à la croix. Il faut comprendre que l'expression, quand il dit « si femme », ce n'est pas une expression méprisante, comme nous on peut peut-être le lire et se dire... Si moi je parle à ma mère comme ça, ça va mal faire. Il y avait un des commentateurs qui disait c'est le genre de choses en tant qu'enfant qu'on essaye une fois, pas deux. Mais ici c'est pas vraiment ça. C'est plutôt l'idée de dire madame. Et il y a peut-être ici l'idée que c'est un terme qui montre un respect, mais qui marque une certaine distance. Et il y a peut-être simplement l'idée ici que Jésus, qui commence son ministère et qui jusqu'à maintenant était surtout vivait en famille, était là avec sa mère. Maintenant que son ministère commence, il doit s'occuper vraiment surtout de ce que son Père lui demande au ciel, Dieu le Père, et que sa relation avec sa mère va peut-être changer. Et ça marque sans doute un changement. Maman, j'étais avec toi juste ici, je faisais ce que tu voulais, je t'aidais, et maintenant, il y a un changement, il y a une distance. Comme ça que je le comprends, c'est intéressant parce qu'il dit non, on a l'impression qu'il dit non, et puis qu'il fait ce qu'elle lui demande. Donc on peut lire ce passage et être un petit peu mal à l'aise. On dit, qu'est-ce que tu me veux? C'est pas mon heure. Et puis il s'occupe elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, un peu comme si elle n'avait pas entendu ce qu'il venait de dire. Et toute l'interaction est difficile. Et je pense que se remettre dans tout ce contexte, avec Marie qui sans doute demandait peut-être un peu plus, et Jésus qui dit non, peut-être même que d'une certaine manière, il dit non, il faut que, par rapport à ce problème de vin, je vais vérifier avec Dieu le Père, en quelque sorte. Si c'est la volonté de Dieu le Père, je vais le faire, mais c'est pas le fait que toi tu me dises de m'en occuper qui me pousse à le faire. Alors Marie aussi, il y a plein de bonnes choses à apprendre de la vie de Marie dans la Bible. Elle est un très bon exemple pour nous, mais peut-être la meilleure chose, le meilleur exemple qu'elle nous ait donné, c'est ce qu'elle montre ici, où elle dit au serviteur, elle dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Ça doit être notre exemple, ça doit être notre motivation, ça doit être ce que nous faisons, de faire ce que Jésus nous dit. On voit qu'il accepte cette demande, verset 6, « Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'au bord. » Donc il accepte apparemment la demande finalement et il donne ses instructions aux serviteurs qui sont là. Il y a énormément de choses à dire là aussi sur ces quelques versets. Ces serviteurs ici, ces quelques serviteurs qui sont là, ils ont une chance incroyable de participer à ce miracle avec Jésus, d'être actifs dans ce miracle. On voit après que l'organisateur du repas, même le marié et sans doute la plupart des invités, ils comprennent pas. Eux, ils disent « Oh, t'as oublié, t'as gardé le bon vin dans une pièce et tu le sors maintenant. Waouh, trop bien, t'as vraiment, t'es incroyable, c'est super. » Le fait que Jésus était impliqué, on a l'impression que ça les dépasse. Mais les serviteurs, eux, ont eu le droit d'être inclus dans ce miracle. Jésus aurait pu créer du vin dans les jars sans qu'ils interviennent. Il aurait pu dire « Bon, d'accord, hop, c'est bon, maintenant il y a du vin dans les jars, allez-y, c'est bon. » Mais il veut les inclure et en les incluant, il les bénit. Ils écoutent Jésus et lui obéissent. C'est pas les serviteurs n'ont pas fait de miracle, ils ont simplement fait ce que Jésus leur a demandé. Leurs efforts n'auraient par eux-mêmes n'auraient rien produit. On note qu'ils ont obéi avec zèle. Jésus leur a dit remplissez les jars et ils les remplissent à ras-bord, c'est-à-dire qu'ils font le plus possible. Humainement, ils ont fait quand Jésus leur a dit remplissez les jars, ils auraient pu les remplir à moitié, les remplir un petit peu, les remplir jusqu'en haut, jusqu'au tracé des 100 litres, la petite ligne, mais pas eux ils remplissent jusqu'à ras-bord. Et il faut comprendre là aussi leurs efforts. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas non plus de tuyau d'arrosage. Il n'y avait pas de robinet où on n'allait pas dans la cuisine, on allumait, puis toc, on allait discuter, et on revenait plus tard, et il y avait 600 litres dans les 6 jars, et c'est bon. C'est 600 litres déjà, ça prend du temps, même avec notre robinet. Ici, sans doute qu'ils devaient aller puiser dans un puits à coups de petits seaux, et le ramener, et le transporter, et jusqu'à ce que ce soit rempli. C'était un gros effort. Et ils ne se plaignent pas, on n'a même pas l'impression qu'ils ne lui posent de questions ou qu'ils rouspètent du tout. Et on pourrait se dire, là aussi, qu'est-ce qui devait se passer dans leur tête? On lui dit qu'il manque du vin et lui, il nous envoie chercher de l'eau pendant une demi-journée. Mais ils le font. Et ces serviteurs et tout cet événement doit être un exemple et une exhortation pour nous de dire déjà Dieu utilise les gens qui sont là, qui sont disponibles, qui sont auprès de lui. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, si vous voulez être témoin de choses miraculeuses de la part de Dieu, il faut chercher à faire ce que Jésus vous dit et le faire le plus possible, avec le plus de zèle possible. Sans vous plaindre, sans vous dire. Parfois, je suis comme un serviteur qui me dit bon, je vais chercher deux seaux d'eau, je les ramène, je mets. Il y a que de l'eau. Bon, ben Dieu a rien fait. Moi, je vais aller rentrer chez moi et Dieu, il agit pas. Ils ont ce zèle simplement de dire bon, il m'a dit de remplir. Il m'a dit quelque chose de simple. Dieu nous dit des choses simples souvent. Dieu nous dit de faire des choses simples. Il ne nous dit pas d'arriver à, par nous-mêmes, envoyer une fusée sur la Lune et en revenir. Dieu nous dit d'aller parler à quelqu'un. Dieu nous dit de faire la vaisselle. Dieu nous dit de prier pour quelqu'un. Ce n'est pas des choses compliquées qui sont au-delà de nos moyens. Et quand il nous demande ces choses, on devrait les faire le plus possible. Est-ce que nous sommes des personnes qui, dans notre service, nous comptons? Ouais, je veux bien venir le dimanche matin, servir un petit peu, mais si je peux pas rentrer à midi et demi pour mon repas, alors... je veux bien servir à l'école du dimanche, mais s'il faut que j'arrive à 9h45 au lieu de 10h15 à l'église, parce qu'il faut que je prépare un petit peu à... Est-ce que si on me dit de nettoyer, bon, je passe vite fait le coup de balai, je vois que c'est encore sale, mais bon. Si je dois lire ma Bible, je vais vite fait lire un verset. Un verset, c'est déjà. mais je vais pas prendre de temps. Ou quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui peut-être ces femmes qui ont perdu des êtres chers, est-ce qu'on va être extravagant d'une certaine manière? Est-ce qu'on va les aimer, on pourrait dire, jusqu'à ras-bord? Est-ce qu'on va témoigner jusqu'à ras-bord? Est-ce qu'on va obéir à Jésus jusqu'à ras-bord? Dans 1 Corinthiens 10, 31, c'est des versets qu'on connaît. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et dans Colossiens 3, les versets 23 et 24, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Donc Jésus aurait pu faire autrement, mais il veut les inclure, il veut qu'ils fassent partie, et c'est pareil pour nous. Il veut que nous puissions faire partie de ces choses, que nous puissions les vivre, que nous puissions être bénis par les choses qu'il va accomplir. Jésus transforme ici l'eau en vin. Les jarres sont remplies à ras-bord, il ne rajoute pas un colorant rouge. Il rajoute pas un petit peu de vin en disant on va mettre un petit peu et puis ça va suffire. Il transforme complètement la chose présente d'une chose en quelque chose d'autre. C'est la même chose dans nos vies quand nous venons à Jésus. La foi chrétienne, c'est pas de rajouter un petit peu d'école de Bible le dimanche, un petit peu de prière de temps en temps, c'est une transformation complète de nos vies. Jésus, Dieu veut faire de nous de nouvelles créatures, changer notre existence même. C'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce miracle de Jésus, ce fait de changer quelque chose en une autre, quelle preuve incroyable que Jésus est Dieu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, par sa pensée, il n'a rien fait, il n'a pas fait de... Est-ce que vous voyez dans le texte un petit procédé religieux? Est-ce qu'il dit, bon, je vais faire trois fois le tour de la jarre, et puis je vais toquer quatre fois dessus, et puis je jette un peu de poudre de perlimpinpin, et puis je rajoute un truc dedans. J'imagine des grandes jarres, donc j'imagine des trucs... C'est pour ça que je fais ce geste-là. C'était des jarres, on voit 100 litres, bon, c'est peut-être des trucs... mais c'est beaucoup. Et il met l'eau et il leur dit, prenez la louche, c'est du vin maintenant. C'est incroyable. C'est un miracle. Je lis ce passage tellement de fois, je suis passé dessus, il ne m'est pas étranger, mais c'est incroyable. Dans Jean 1, 3, on a lu il y a 2 semaines, tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a la puissance, c'est le Créateur, Dieu peut changer, peut transformer, peut faire des choses qui sont... inexplicable. C'est intéressant, là aussi on peut se dire, qu'est-ce qu'ils pensaient les serviteurs quand ils ont tiré avec la louche et qu'ils ont été emmenés est-ce qu'ils avaient déjà vérifié eux-mêmes, est-ce que l'organisateur, peut-être il va goûter, il va dire c'est quoi ce truc, non, l'organisateur dit wow, « c'est le meilleur vin qu'on ait eu jusqu'à présent. » Et les serviteurs, eux, à ce moment-là, ils savent qu'il y a eu un miracle. L'organisateur du repas pense simplement qu'on avait peut-être oublié le bon vin dans une autre pièce. On a commencé avec... Ou que les mariés ou la famille du marié voulaient faire les choses autrement. Quand nous servons activement et avec zèle Jésus-Christ, alors nous pouvons voir et faire l'expérience de ses œuvres et de ses miracles. C'est quand nous nous mettons en situation de dépendre de Dieu et de Jésus, c'est à ce moment-là que nous allons voir les miracles. Si nous sommes présents et que nous sommes actifs dans la vie de l'Église, si vous venez à une réunion de prière, vous allez vous rendre compte qu'il y a des réponses aux prières. Si vous ne venez jamais à ces réunions, vous n'êtes pas au courant. Si vous ne parlez jamais aux autres, si vous ne témoignez jamais de Jésus aux autres, vous n'allez certainement jamais venir voir des amis ou des membres de votre famille venir à Jésus. C'est simple comme logique. C'est pas... Si nous sommes présents à impliquer, si vous dites « je vais faire ça parce que je crois que Jésus veut que je le fasse », c'est à ce moment-là que vous pouvez voir comment Jésus intervient et fait des choses incroyables. Et les gens à la fête sont surpris et contents, sont hors d'eux. À l'époque, le mariage, c'était la plus grande fête. Il n'y avait pas vraiment de boîte de nuit, on faisait pas la boum, c'était les mariages, c'était la fête, quoi. Le reste du temps, on travaillait, et puis on avait, voilà, c'était, et là, c'est un petit peu comme si, la fête est déjà en place, il se passe des choses bien, et puis là, on surenchérit, ils font arriver des célébrités avec j'essaie d'imaginer, c'est un peu, une fête de mariage, vous commencez, et c'est, des fois, il y a des vidéos comme ça, j'ai vu par le passé, où il y a des groupes de musique célèbres qui vont surprendre les gens à leur mariage. Et les gens sont là, ils dansent, il y a la fête, et puis à un moment, il y a le truc qui tombe, et là, ils voient leur groupe préféré qui est en train de jouer pour eux, et c'est, waouh, c'est, déjà, la fête, c'était une bonne fête, c'était déjà bien, mais là, tu ramènes le truc à quelque chose d'incroyable. Quelque chose que personne ne fait, qui est même pas, on n'y pense même pas de sortir le bon vin à la fin, comme ça. Jésus prend une situation qui aurait pu être une disgrâce sociale et il en fait quelque chose d'encore plus mémorable. Ce qui aurait pu être une tare, quelque chose qui aurait marqué leur mariage pour le reste de leur vie. Maintenant, au contraire, tous les gens vont parler le reste de leur vie. Wow, tu te souviens comme ton mariage était génial, c'était incroyable. Comment vous avez fait ça? Pourquoi vous avez sorti ce vin-là à ce moment-là? C'est incroyable. Wow. C'est vraiment beau. Et avec Dieu, avec Jésus, il garde le meilleur pour la fin. En tant que peuple de Dieu, ce qui nous attend, c'est le meilleur. Parfois dans nos vies, parfois dans ma vie, je peux me dire, je veux que tu reviennes, mais je veux faire l'expérience de certaines choses. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux voir mes enfants grandir. Si tu pouvais tarder un petit peu, ce serait bien, parce que ça, c'est comme les meilleures choses de la vie. Il faut pas que je loupe ça. Mais la réalité, c'est que la vie avec Jésus et l'éternité avec lui seront tellement mieux qu'on n'arrive pas à l'expliquer. On n'a pas à se dire, ouais, je veux profiter de ma retraite ou je veux profiter de telle ou telle chose. Ce n'est pas des mauvaises choses à vouloir. C'est pas, Dieu ne veut pas nous empêcher d'avoir ces choses. Mais la bonne perspective, c'est de nous dire que quoi qu'il nous arrive dans notre vie, le meilleur est encore à venir si nous sommes en Jésus-Christ. Et par contre, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, Satan, lui, il nous attire avec du mauvais vin et il garde des choses encore pires pour la fin. Et quelques commentateurs ont noté, et je crois que c'est la bonne perspective, si nous avons Jésus, cette vie sur terre est le pire de ce qui va nous arriver. Si nous n'avons pas Jésus, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous n'êtes pas sauvé par votre foi en Jésus, cette vie, ce qui vous arrive dans cette vie est ce qui vous arrivera de mieux dans toute votre existence. Donc il fait ces choses, cette transformation, il crée le vin, il sauve la situation, et on voit au verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Ça manifeste la gloire de Jésus. Ses disciples croient en lui. Je vous disais que c'est le premier des sept signes choisis par Jean pour nous présenter Jésus. Et pour Jean, tous ces signes qu'il nous donne donnent des indications plus profondes. On a vu, c'est pas juste. Il y a quelque chose de la puissance divine dans ce qui s'est passé. Jésus n'est pas quelqu'un de Jésus, par la simple volonté, peut transformer de l'eau en vin, peut contrôler les éléments. Et les signes que Jean nous présente concernant Jésus sont des signes qui nous montrent des choses plus grandes et plus profondes encore, et sur lesquelles nous pouvons réfléchir et méditer, et sur lesquelles il y a énormément d'idées et de choses que vous pouvez aller creuser dans ces choses, et vous n'en arriverez jamais à la fin. Et si vous voulez quelques idées, on peut regarder cette chose-là et se dire, ok, c'est il a transformé de l'eau en vin, d'accord. Si on pense à ce qui est dit, les jarres, il est dit, c'était des jarres qui étaient utilisées pour les purifications des Juifs, et elles contenaient donc de l'eau. C'est l'eau des cérémonies de l'Ancien Testament. Et Jésus transforme cette eau qui est utilisée pour cette cérémonie de l'Ancien Testament dans le vin de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, de manière symbolique. Son sang versé à la croix. Ça nous montre aussi la puissance incroyable de transformation qu'a Jésus. Il peut changer la nature même d'une chose. Et pour nous, l'espoir et ce que nous croyons, c'est qu'il nous change. Il fait de nous de nouvelles créatures quand nous venons à lui. Et gloire à lui, gloire soit à Jésus-Christ qu'il peut faire ça parce que nous en avons besoin. C'est Paul dans le Romain qui dit « Malheur à moi si je dois tout faire par mes propres efforts, si je dois me changer tout seul, si moi je suis de l'eau et que je dois me transformer tout seul en vin, je ne peux pas. Mais gloire à Dieu parce que lui peut le faire et nous promet de le faire. » On pourrait de ces choses-là, le vin vient après l'eau, la nouvelle alliance vient après l'ancienne alliance, le vin vient de l'eau. La nouvelle alliance descend de l'ancienne alliance. On voit que le vin est meilleur que l'eau. La nouvelle alliance pour nous est meilleure que l'ancienne alliance. Ses disciples croient en lui. Alors on pourrait dire, mais est-ce qu'ils n'y avaient pas cru avant? On voit les passages avant, ils ont dit oui, on a trouvé le Messie, viens. Ils ont vu les miracles, ils ont vu l'Esprit Saint descendre. Mais on peut simplement penser que ces miracles et ces différentes choses les font croire encore plus. Leur foi s'approfondit, leur compréhension de Dieu grandit. Et pour nous, quand vous faites l'expérience de Jésus à l'œuvre dans votre vie, pour ma part, quand j'ai eu l'occasion de le faire, ça me permet de croire un peu plus et de manière plus riche à chaque fois. C'est un peu comme dire, je veux connaître encore un peu plus Jésus aujourd'hui, je veux croire en Jésus de manière fraîche et renouvelée ce matin, ou en cette situation. Et il veut le faire. Pour récapituler sur les différentes personnes, on voit que beaucoup de personnes ne croient pas ou ne sont pas au courant, mais que ses disciples croient. On voit dans la vie de Marie que Dieu peut nous montrer des choses, mais qu'il y a parfois un temps d'attente et que les choses ne se passent pas exactement comme nous le voulons. Et nous ne devons pas essayer de dicter à Dieu ce qu'il doit faire ou comment il doit faire les choses. Les serviteurs, eux, nous montrent que si on est présent et qu'on fait ce que Jésus nous dit, ce que la Bible nous indique surtout, et qu'on le fait avec zèle, il va se révéler, il va se montrer à nous, il va nous montrer des miracles, des choses que nous ne verrions jamais si nous ne lui obéissions pas. On voit que le meilleur est réservé pour la fin, que nous avons le meilleur encore qui nous attend. Pour moi, ce qu'il en ressort d'application personnelle, c'est vraiment cette idée de dire est-ce que je fais ce qu'il me dit de faire, sans m'attendre et sans que la motivation soit de dire je veux voir des miracles ou des choses incroyables. Les serviteurs, ils font ce qu'ils lui demandent, ils font ce qu'il leur dit et il choisit de les bénir et de leur montrer des choses miraculeuses. En tant que chrétien, en tant que personne qui croit en Jésus, j'ai envie de voir Jésus plus à l'œuvre. J'ai envie de voir des choses tangibles encore plus. J'ai envie de voir des miracles. J'ai envie de voir des choses incroyables se passer. Pas que ce soit une fin en soi, pas que ce soit l'objectif principal, mais que ça me permette de connaître Jésus et de croire en lui. C'est ça, Jean dans Jean 20:31 nous dit, je vous montre ces signes, je vous permets de voir ces choses parce que comme ça vous croirez, comme ça vous aurez cette relation avec lui. Et donc pour nous, si vous voulez que votre relation avec Jésus s'approfondisse, si vous voulez le voir à l'œuvre, servez-le avec zèle, faites ce qu'il vous dit, faisons ce que Jésus nous dit à chacun. C'est encore une fois, ce sont des choses simples. Prions. Jésus, merci pour ce miracle que tu as accompli. Nous croyons que c'est une histoire vraie, Seigneur, que tu as vraiment fait ces choses et c'est incroyable. En tant qu'être humain, ça nous dépasse. Pardonne notre incrédulité parfois face à toi de douter de ta capacité à faire des choses incroyables et miraculeuses, Seigneur. Jésus, nous voulons t'inviter dans nos vies. Je veux t'inviter dans ma vie, dans tout ce que je fais. Et je veux faire ce que tu me dis de faire. Fais-moi grandir en obéissance, Seigneur, dans mon amour pour toi. Fais-nous grandir en tant qu'Église, d'être des personnes qui faisons avec zèle ce que tu nous dis de faire. Et Seigneur, nous nous attendons à ce que tu agisses, à ce que tu sauves des personnes, à ce que tu sois à l'œuvre parmi nous. Seigneur, que les miracles ou les choses ne soient pas notre objectif, Seigneur, mais que nous ayons chacun soif de croire encore plus en toi, de croire encore plus profondément en toi, que nous ayons soif de te connaître de manière renouvelée et approfondie tous les jours de nos vies, Seigneur. Merci pour ce texte, merci pour cette parole, merci pour cette famille que nous sommes en toi. Et Seigneur, viens maintenant, sois présent au milieu de nous pendant ce temps de communion fraternelle. Tu aimes quand nous sommes ensemble, quand nous vivons ensemble. Et nous voulons que tu sois invité aussi à ce moment-là, Seigneur. Sois glorifié ce matin dans notre assemblée, Seigneur. Dans notre temps ensemble, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.